l'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio.
Séoul au jour le jour. Bonjour et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Séoul au jour le jour. Hier, c'était Jungbok, la deuxième des trois jours les plus chauds de l'été, appelée Sambok. Pendant cette période, les Sud-Coréens ont pour coutume d'engloutir un plat réconfortant pour mieux supporter la chaleur écrasante. Mais comment passait-on l'été à l'époque où il n'existait pas de ventilateurs et de climatiseurs ? En effet, cela ne fait pas longtemps que l'humanité a conçu une technologie qui permet de baisser la température intérieure. Depuis la nuit des temps, les humains ont utilisé des éventails. À l'époque de l'Égypte ancienne, on accrochait des roseaux mouillés sur les fenêtres pour que l'eau absorbe la chaleur en s'évaporant. Le ventilateur est le premier appareil qui a permis de refroidir la sueur. On estime que le premier a vu le jour au XVIIe siècle et qu'il fonctionnait avec un immense éventail agité par un pendule accroché au plafond. Au début des années 1800, le premier engin mécanique qui s'appelle Punka est utilisé dans le Moyen-Orient et en Inde. Le pendule qui oscille de haut en bas faisait bouger l'hélice qui lui était reliée. Et concernant le ventilo électrique, il a été inventé par le scientifique américain Thomas Edison à la fin du 19e siècle. À propos du climatiseur, c'est l'américain Willis Avilan Carrier qui a conçu le premier système de climatisation moderne. En 1902, lorsqu'il était employé d'une entreprise de fabrication d'appareils de chauffage, une imprimerie de New York a fait une commande spéciale. Elle voulait améliorer la qualité de son impression dégradée par le temps chaud et humide. Carrier a alors mis en place une machine capable de contrôler la température et l'humidité en utilisant l'ammoniac comme réfrigérant. C'est ainsi que le premier climatiseur a vu le jour. Alors, dans quel endroit le premier climatiseur de Corée du Sud a-t-il été utilisé ? C'est dans la grotte de Sokgulam à Gyeongju qui renferme une statue monumentale de Bouddha. Lors de la dynastie de Silla, cette caverne artificielle a été créée sur une base scientifique pour que l'humidité de l'intérieur soit réglée naturellement. Or, pendant l'occupation japonaise, les autorités coloniales ont revêtu les murs de béton et ont bloqué les eaux souterraines qui coulaient en bas de la grotte dans le cadre d'une rénovation. À la suite de ces travaux, la pièce intérieure souffrait d'un problème d'humidité. Le gouvernement sud-coréen a essayé d'y remédier par tous les moyens, mais en vain. En dernier recours, il a fermé hermétiquement la pièce et y a installé des climatiseurs importés du Japon. Puis les entreprises sud-coréennes se sont mises à importer et à développer des clims. En 1968, la société Goldstar, qui deviendra LG, a commercialisé un climatiseur de la taille d'un téléviseur pour la première fois dans le pays. Dans les années 80-90, les étudiants sud-coréens faisaient entendre leur voix en collant une grande affiche sur les panneaux d'affichage du campus. Pourtant aujourd'hui, cette culture risque d'être reléguée dans les oubliettes de l'histoire. En effet, dans les années 2010, cette pratique semblait regagner en popularité en tant que mode de communication rétro à l'ère numérique. L'affiche qui a relancé ce mouvement était celle intitulée « Aujourd'hui, j'arrête tout et je refuse l'université », écrite par Kim Yesol, étudiante à l'université Korea. Cette dernière y dénonçait les universités d'aujourd'hui qui ne sont que des pions du capitalisme et qui produisent de simples ouvriers, en déclarant qu'elle quitterait le campus. Son message a eu un grand retentissement dans la société. 3 ans plus tard, le manuscrit « Vous allez bien » d'un autre étudiant de l'université Korea a également défrayé la chronique en abordant les problèmes concernant le licenciement des employés de la Compagnie nationale des chemins de fer qui se sont opposés à la privatisation de leur entreprise, mais aussi les ouvriers en CDD ainsi que de la communauté LGBT. En septembre 2017, une étudiante de l'université féminine de Sukmyeong a divulgué les propos sexistes des professeurs à travers un affichage mural. Or, aujourd'hui, dans le sillage du Covid-19, les cours à distance se sont démocratisés. Les tableaux d'affichage ne jouent plus le rôle de lieu d'échange des opinions. La semaine dernière, lorsque le conseil des étudiants de l'université Kyung-hee a discuté de la fermeture du conseil des étudiants, cette affaire a fait couler beaucoup d'encre en ce que c'était le dernier établissement à Séoul qui abrite cet organisme. Pourtant, les panneaux d'annonce qui étaient remplis d'affiches il y a 2 ans restaient vides. Selon un étudiant, auparavant, il y avait toujours quelque chose à lire, mais maintenant, on n'y trouve que des offres d'emploi. Un universitaire a expliqué que ce phénomène était une réaction des jeunes à leurs aînés, qui les réprimandaient pour leur désintérêt envers la politique. Les jeunes d'aujourd'hui préfèrent manifester leurs pensées sur le groupe Facebook de chaque établissement scolaire ou sur la communauté en ligne Everytime où on peut poster des publications sous couvert d'anonymat. Les forums sur le web sont pratiques à utiliser et permettent de propager rapidement les enjeux. Or, ils débordent souvent de propos haineux et de commentaires malveillants. L'année dernière, un utilisateur s'est même suicidé à cause de la diffamation en ligne. Un autre problème, ceux qui ne recourent pas aux réseaux sociaux ont moins accès aux informations partagées en ligne. Selon un jeune, les notifications des départements sont souvent publiées sur les réseaux sociaux et cela arrive qu'ils ratent des données importantes parce qu'ils les utilisent rarement. Sur fond de Covid-19, qui a frappé durement l'économie, de plus en plus de jeunes recourent à la psychothérapie. Pour des séances de consultation pour la santé mentale des jeunes générations organisées par la municipalité de Séoul en avril dernier, plus de 1800 personnes se sont inscrites alors qu'il y avait seulement 1000 places disponibles. La capitale compte augmenter le nombre de places pour bénéficier à plus de personnes. Les étudiants se ruent également sur le service de psychothérapie accordé par les universités. Park, un sud-coréen de 24 ans, qui cherche un emploi, était souvent d'humeur dépressive et il s'est inscrit à une séance à sa fac. Mais comme la liste d'attente était longue, il devait attendre 1 mois et demi pour rencontrer un thérapeute. Selon un expert, il est normal que les jeunes générations soient anxieuses pour l'avenir. Mais aujourd'hui, à cause de la pandémie, ils ont encore moins de contrôle sur leur vie quotidienne, ce qui peut les rendre dépressifs. Par conséquent, ils se concentrent davantage sur eux-mêmes et ont envie de s'améliorer. La consultation des jeunes sud-coréens ne se limite pas à la santé mentale et à l'orientation professionnelle. Ils abordent divers sujets tels que comment renouer ses relations avec son ex, l'art de bien s'exprimer en public ou encore comment augmenter l'estime de soi. Un centre de psychothérapie propose une séance à un tarif exorbitant de 990 000 won, soit 730 euros, sous le slogan « Une haute estime de soi garantit le succès des relations amoureuses et humaines ». Or, les réservations sont toutes prises jusqu'à la mi-août. Selon le directeur, la plupart des clients sont âgés de 20 à 39 ans et ils espèrent trouver ce qui leur manque et comment le compléter. Dans ce contexte, rien que cette année, plus de 400 nouveaux certificats privés de psychothérapie ont vu le jour. On y retrouve notamment une thérapie qui traite les clients avec la chorégraphie et celle reposant sur la forme des oreilles que certains croient liée au tempérament des humains. Il existe également une formation pour les consultants spécialisés dans les bonnes manières au travail. Un spécialiste a averti que lorsqu'on se focalise seulement sur le côté attirant des séances, cela risque de dégrader l'effet de la thérapie.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Et oui, vous êtes bien sur KBS World Radio pour votre magazine de société sous le jour en compagnie de Franck Atlani ce jeudi 22 juillet. Pour regarder un film d'horreur dans la pénombre d'une salle de cinéma, il faut avoir beaucoup de courage. Pour ceux qui n'y sont pas prêts, la franchise Lotte Cinema propose des séances pour les poules mouillées où on peut regarder un film les lumières allumées. Ce programme spécial est destiné au long métrage récemment sorti, The Medium. Fruit d'une collaboration entre les réalisateurs thaïlandais Banjong Pansin Takanakun et le sud-coréen Na Hong-jin. Ces deux cinéastes étant connus pour faire des films qui font froid dans le dos, cette nouveauté a suscité l'attention même avant la sortie. Elle décrit une tragédie surréaliste d'une famille de chamans dans la campagne thaïlandaise. La semaine dernière, lors de la première séance, devant l'entrée de la salle, les employés ont distribué une paire de bouchons d'oreilles aux spectateurs les plus froussards. Avant la projection, la lumière de la salle était éteinte pour diffuser la vidéo sur les bonnes manières dans une salle de cinéma et certains spectateurs perturbés ont demandé d'éclairer la pièce. Par rapport aux séances normales, il y avait moins de tension dans la salle et on pouvait voir au grand jour certains qui sautent sur leurs compagnons par peur. Les séances pour les peureux se déroulent dans des salles spéciales équipées d'un écran LED. Celui-ci est 10 fois plus lumineux que l'écran traditionnel et il est donc capable de diffuser des images claires même si on n'assombrit pas la pièce. Contrairement à la méthode conventionnelle qui utilise des projecteurs, l'écran s'illumine de lui-même. Auparavant, lorsque certains films d'horreur comme Annabelle et Gonjiam Haunt Asylum ont fait un tabac, les spectateurs se sont amusés à partager sur les réseaux sociaux les photos du pop-corn qu'ils ont fait tomber à force de sursauter. Et concernant The Medium, la société a pris cette initiative pour rappeler le plaisir de regarder des films au cinéma. C'est la première fois depuis la fondation de l'OT Cinéma en 1999 qu'un film a été projeté toute lumière allumée. Entre 2004 et 2019, certaines salles de cinéma ont éteint seulement la moitié des lumières pour que les mamans puissent regarder des films avec leurs jeunes enfants. Selon O'Dongen, le responsable qui a proposé cette idée, il s'est inspiré du fait qu'on regarde les scènes post-génériques des longs métrages de Marvel dans une salle éclairée. Ce projet ingénieux a fait un carton et ses projections, qui ont été effectuées seulement dans une salle à titre d'essai, se sont élargies à 3 autres cinémas. Dans 3 succursales, le taux d'occupation des sièges de ces séances était 20% plus élevé que les salles traditionnelles. Même si elle voit un chien ou un chat mourant, délaissé par son maître, une tierce personne ne peut pas lui venir en aide légalement. Car en vertu du code civil, les animaux sont considérés comme un objet et il faut une autorisation du propriétaire pour les toucher. Afin d'éviter cette situation, le ministère de la Justice prévoit de déposer un projet de révision visant à reconnaître le statut des animaux en tant qu'êtres vivants à part entière. Ce nouveau texte permettra de durcir la punition pour la maltraitance des animaux et d'augmenter le dédommagement lorsque les animaux de ont subi des dommages. Aujourd'hui, concernant les affaires d'abus des animaux, le tribunal, le parquet et la police considèrent que le coupable a provoqué un dommage matériel et en enfreint la loi sur la protection animale. Par exemple, en 2016, à Poussan, un habitant a lancé un chien mâle depuis le toit d'un habitant du fait que celui-ci restait collé à sa chienne. Il a été condamné à une amende de 1,5 million de won, soit 1100 euros pour avoir porté atteinte à un bien d'une valeur de 37 euros. La nouvelle loi ne reconnaît pas le droit des animaux au même niveau que celui des hommes, mais elle contribuera à appliquer une autre base légale aux affaires de maltraitance des animaux. Pour cette raison, certains évoquent la nécessité de la mise en place d'une loi qui aborde leur préjudice corporel. Un autre progrès, le texte amendé ne limite pas le champ d'application aux animaux de compagnie, contrairement à la loi sur la protection animale. Cette dernière reconnaît seulement 6 espèces comme animaux de compagnie, à savoir les chiens, les chats, les lapins, les cochons d'Inde, les hamsters et les furets. Le nouveau texte permettrait donc de faire évoluer les débats sur la cause des animaux. La proposition d'amendement repose sur un sondage d'opinion réalisé en décembre 2018, selon lequel 89,2% des interrogés estiment qu'il faut faire la différence entre les objets et les animaux. D'après le ministre, avec l'augmentation des foyers qui élèvent un animal de compagnie, on constate un intérêt croissant pour la protection et le respect des animaux. Et cet amendement a pour objectif de créer une société où la vie est davantage respectée, que ce soit celle d'un humain ou d'un animal. Il sera bientôt possible de connaître le niveau de pollution de l'atmosphère avec des aiguilles de pin. L'Institut national de recherche environnementale a annoncé hier son plan de standardisation des technologies permettant d'analyser les polluants dans l'eau douce, sur la plage et dans l'air à l'aide de 9 espèces de faune et de flore. Il prévoit d'achever le projet l'an prochain au plus tôt, puis de commercialiser les techniques. Ces technologies permettront d'acquérir des connaissances sur la pollution des endroits qui n'abritent pas de centre de mesure. Tout d'abord, les feuilles de pin peuvent servir de baromètre de la pollution, parce qu'elles absorbent des métaux lourds qui flottent dans l'atmosphère, comme le plomb et le cadmium, pendant la respiration. Leur avantage est qu'elles restent plus de 2 ans sur les branches et qu'on peut les cueillir, peu importe la saison. Pour la mesure, il faut broyer les aiguilles prélevées à une température très basse et les analyser dans un laboratoire. À part ce conifère, les feuilles de zelkova du Japon, du chêne de Mongolie et les œufs de pigeon peuvent également être utilisés pour évaluer l'état de l'air. En ce qui concerne la pollution de l'eau, la carpe et l'Unio Douglasiae, une sorte de coquillage, permettent de mesurer la qualité de l'eau douce, tandis que les moules et les œufs de goéland à queue noire font savoir à quel point l'eau de la mer est propre. L'Institut collectionne les œufs de ces oiseaux sur tout le territoire depuis 10 ans. Cette espèce est un prédateur supérieur dans l'écosystème maritime et son corps contient donc des produits polluants accumulés à plusieurs étapes de la chaîne alimentaire. Avec les œufs pondus, il y a seulement quelques jours, on peut savoir ce que les mers ont ingurgité et la teneur de ces substances néfastes, notamment concernant les microplastiques. À vos marques. Nous sommes à la veille de l'inauguration des Jeux Olympiques d'été de Tokyo. Thierry Laplanche nous rejoint pour faire découvrir cette fête sportive planétaire avant l'heure. Bonjour Thierry.
Bonjour Franck.
Certaines disciplines suscitent l'émotion des spectateurs au-delà de la question des médailles. Et en Corée du Sud, c'est souvent le cas des sports de ballon féminin.
C'est cela, on peut évoquer tout d'abord le handball dont la performance des joueuses reste gravée dans la mémoire des Sud-Coréens malgré les conditions pénibles lors des JO d'Athènes de 2004. Cette histoire émouvante a même inspiré le film Forever the Moment. Ensuite, le basketball sud-coréen accomplit un exploit inattendu aux JO de 1984 à Los Angeles en décrochant la médaille d'argent. En ce qui concerne le volleyball, il suscite les attentes cette année grâce à la vedette mondiale Kim Yong-gyeong, mais malheureusement, les équipes masculines ont échoué à se qualifier dans toutes ces disciplines.
C'est la 10e fois de suite que les handballeuses sud-coréennes ont obtenu leur billet pour les JO, une première dans le monde, hommes et femmes confondus.
Effectivement, c'est une fois de plus que leurs compatriotes footballeurs. Cette discipline était auparavant considérée comme une chasse gardée du pays du matin clair. Les handballeuses ont ramené l'or aux JO de Séoul en 1988 et ceux de Barcelone en 92, avant de décrocher l'argent à Atlanta en 96, à Sydney en 2000, puis à Athènes en 2004. Par la suite, elles se sont éloignées du podium et l'attention des fans a également chuté. En 2016, à Rio de Janeiro, l'équipe sud-coréenne a encaissé un échec lors des phases de groupe.
Toutefois, pour les JO de cette année, elle a terminé en tête des épreuves de qualification en Asie en s'imposant contre ses 5 rivales.
C'est cela, les joueuses se sont entraînées longtemps pour une meilleure coordination et la composition du groupe de phase leur est plutôt favorable. La Corée du Sud appartient au groupe A avec les Pays-Bas, la Norvège, le Japon, l'Angola et le Monténégro. Si elle se contente de gagner face aux pays les moins menaçants, c'est-à-dire l'Angola et le Japon, elle pourra atteindre les 8e de finale en tant que 4e de sa poule. Or, dans ce cas, elle doit tout de même tout de suite affronter le premier du groupe B, c'est-à-dire qu'il faudra arracher la victoire contre la Norvège ou les Pays-Bas pour remporter une médaille.
Et à propos du basketball, c'est John Juwon et Lee Mi-sun qui ont été nommés respectivement au poste de sélectionneur et d'entraîneur.
Tout à fait, elles ont été embauchées à travers un recrutement public. John est la première sud-coréenne à prendre les rênes de l'équipe olympique dans les sports collectifs de ballon. L'ancienne basketteuse légendaire avait conduit sa formation à se qualifier pour les quarts de finale lors des JO de Sydney, c'était en 2000.
À noter que c'est la première fois depuis 13 ans que des basketteuses sud-coréennes concourent aux JO.
C'est cela, leur meilleur atout, c'est Park Ji-soo, qui évolue en Ligue nord-américaine de basketball féminin. La Corée du Sud affrontera l'Espagne, le Canada et la Serbie dans le groupe A. Pour la qualification en 8e de finale, il faut au moins se classer 3e dans la poule en remportant une victoire, mais la tâche s'annonce loin d'être facile.
Mais qu'en est-il du volleyball féminin? L'équipe sud-coréenne a-t-elle plus de chances?
Eh bien, il s'agit du premier sport collectif de ballon qui a ramené une médaille olympique à la Corée du Sud en 1976 à Montréal. Cette année, à Tokyo, la reine du volleyball Kim Yong-gyeong tentera de faire briller les couleurs de son pays. Désignée comme l'une des porte-drapeaux de la délégation sud-coréenne, elle a jusqu'à présent remporté tout ce qu'elle pouvait en tant que volleyeuse, sauf une médaille aux JO, d'où l'attente du pays pour qu'elle y fasse bonne figure.
Jusqu'à l'année dernière, cette discipline était considérée comme une valeur sûre, n'est-ce pas? n'est-ce pas ?
C'est vrai, mais les jumelles Ida Yang et Ija Yang, respectivement passeuses et frappeuses extérieures, ont été exclues du terrain à la suite du scandale lié au harcèlement scolaire. Quant à Gang So-hui, frappeuse extérieure qui a contribué au triomphe de son équipe GS Caltex Seoul Kicks en V-League, la ligue sud-coréenne officielle, elle ne fait pas partie de la liste des joueuses à cause d'une blessure. Le potentiel de la formation a donc l'air moins élevé que lors des derniers JO.
Alors, qui rencontreront les Sud-Coréennes dans la phase de poule ?
La Corée du Sud se trouve dans le groupe A avec le Japon, la Serbie, le Brésil, le Kenya et la République dominicaine. Son premier objectif est de terminer au moins quatrième de la phase de groupe afin de se qualifier pour les huitièmes de finale. L'épreuve finale et le match pour la troisième place sont prévus le 8 août, le dernier jour des JO.
Eh bien, espérons que les Sud-Coréennes clôturent le festival en grande pompe avant de regagner leur pays.
Bonne chance à l'équipe sud-coréenne pendant ces JO.
C'est la fin de notre émission Séoul au jour du jeudi. C'était Franck Atleni au micro, Ijian à la rédaction, avec Ho Hayang à la réalisation. Merci de nous avoir suivis, je vous souhaite une très belle journée.